Auditrice, auditeur de Radio Arc-en-Ciel, bonjour. Je disais d'accord à notre technicien qui me disait qu'on y va. Ben oui, ben le train, il rétrécit pas, hein, c'est un train. Le train de conseil des maillages va démarrer, comme d'habitude. Donc, je fais un grand coucou à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui sont fidèles de Radio Arc-en-Ciel, et que surtout ceux qui nous remercient, qui nous font un retour pour nous dire qu'ils attendent patiemment chaque jeudi pour écouter l'émission Conseil des maillages. Alors, ça me fait énormément plaisir. Il y en a qui disent, qui demandent des prières, hein, pour que la Vierge Marie m'éclaire, me mette sous la robe. Enfin, bref, ça me fait tellement plaisir. Et la Radio Arc-en-Ciel est là pour vous aider, bien sûr, puisque cette émission a été mise en place par la Radio Arc-en-Ciel pour venir en aide aux des personnes en difficulté. Et vous apporte pas que des nouvelles, vous aide aussi dans vos démarches, dans vos documents, dans vos dossiers. Mais ça se passe par mail, c'est-à-dire que vous posez vos questions sur conseil@radioarcenciel.re, ou bien alors vous envoyez un texto sur le portable, vous m'appelez et le numéro de portable je vous donne à la fin puisque je suis en direct. Et bien sûr, il y a un numéro de fixe, le 02 62 41 66 16. 02 62 41 66 16, adresse postale 18 bis rue Montreuil 97 400 Saint-Denis. Alors pour ne pas avoir des petits retours de texto pour me dire que j'ai oublié de dire ici et là, je fais un coucou à toute la Réunion, à tous nos auditeurs. Il y en a un surtout qui aime bien qu'on le salue à chaque jeudi, hein, un chauffeur livreur, hein, qui écoute Conseil des maillages en roulant, en faisant son travail. Alors il y a aussi ceux de Métropole, hein, Camille Bruno, notre tout nouvel auditeur qui nous écoute il y a pas trop longtemps, donc qui est aussi à Nantes. Donc, je fais un grand coucou à tous nos Nantais, à tous ceux qui sont à l'extérieur de la Réunion, à Mayotte également. Et puis, restez au taquet avec un petit stylo, un papier, parce que souvent, vous aurez peut-être des choses à noter. Voilà, donc, et que vous êtes prise au dépourvu. On m'a dit, Annick, que tu vas trop vite, hein, on va essayer de noter, et puis tu dis trop vite. Alors, je vais essayer d'aller lentement. Et puis, nous faisons enfin un grand coucou, un grand cœur avec la mère à tous ceux qui sont malades, hein, nous avons un fidèle auditeur qui a été hospitalisé, qui nous a fait savoir, la femme nous a fait savoir. Voilà, donc, et tous ceux qui sont malades, alités ou en situation de handicap. Voilà, à tous ceux-là, j'envoie cœur avec la main, bisous de loin, et restez au taquet, je vais vous apporter des informations, comme d'habitude. Voilà, donc après tous ces saluts, ces bisous, ces cœurs avec la main, c'est tout ça et ces remerciements, nous attaquons Conseil des maillages et nous allons passer sur les points que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons parler du RSA, du handicap petite enfance. C'est le projet de loi plein emploi définitivement adopté. Nous allons parler encore du RSA, la revalorisation du RSA. Les départements de France protestent. C'est dans un communiqué de presse du 27 novembre 2023 que les départements de France protestent la revalorisation du RSA. Mais enfin, il y a une revalorisation du RSA, il y aura une augmentation pour votre argent. Nous allons parler de victimes de violences conjugales. Un décret fixe le barème de l'aide d'urgence. Vous vous souvenez, je vous ai parlé hein, de cette histoire que tous les gens ils voulaient avoir qu'ils d'autres bonhommes, avoir qu'ils d'autres femmes, violences conjugales, va gagner de l'argent, etc. Eh bien, il y a un décret qui a été publié et donc qui fixe le barème de l'aide d'urgence. Et je vais vous donner quelques explications, quelques détails, quelques informations pour que vous sachiez que ce n'est pas si facile que ça pour gagner de l'argent, on quitte, on revient. Non, ce n'est pas comme ça du tout. Je vais vous donner les informations. C'est un décret qui a été publié. Nous allons parler de l'État qui promet un rattrapage de l'offre médico-sociale à La Réunion. Là, il y a quelque chose bien précis pour La Réunion. Il y a une signature d'une convention entre la ministre chargée des personnes handicapées, Fadila Khattabi, et le président du département de La Réunion, Cyril Melchior, le 10 novembre. Adoption définitive du projet de loi portant sur les mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Nous allons parler du projet de loi partage de la valeur qui prévoit un maintien de l'exonération d'impôt sur le revenu des primes de partage de la valeur, la PPV, perçue par les salariés d'entreprises. Les entreprises de moins de 50 salariés, il y a une nouvelle obligation de partage de la valeur, maintien de l'exonération d'impôt sur le revenu pour les entreprises de moins de 50 salariés. Alors là, c'est une nouveauté là, hein. Enfin, ou du moins c'est un rappel que les entreprises de moins de 50 salariés, il y a une nouvelle obligation de partage de la nouvelle obligation de partage de la valeur, d'accord, de la prime de partage de la valeur. Nous allons parler de la retraite anticipée pour inaptitude. Il y a des précisions qui ont été publiées par la CNAV. La CNAV, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse, d'accord. Il y a cette histoire de retraite anticipée pour inaptitude quand la personne ne peut plus aller travailler. À ce titre, je fais un clin d'œil à deux personnes, hein, dans l'Est et dans l'Ouest, d'un dossier qui actuellement est en cours pour inaptitude. Nous allons parler du titre restaurant, que faire l'étiquette des restaurants 2023 non utilisée. Je ne vais pas développer ça après, hein. Je vous dis simplement que vous avez jusqu'au 31 décembre pour utiliser vos titres restaurants. Passé cette date, vous aurez la possibilité d'échanger gratuitement vos tickets papier non utilisés contre un nombre égal de titres de l'année 2024. D'accord ? Et donc, il faut justement, si j'ai le temps, je développe, sinon ce n'est pas la peine, je vous dis simplement que si vous en reste, eh bien, vous échangez avec celui qui vous l'a donné, hein, vous les a donné, les tickets restaurant, eh bien, on remplace les tickets pour la nouvelle année 2024, d'accord, ceux que vous n'avez pas utilisés. Nous allons parler de la complémentaire santé solidaire qui a remplacé la CMU-C, couverture maladie universelle solidaire. Et souvent, quand je dis ça, je dis non, on n'a plus de CMU maintenant, c'est la CSS. Ah bon, c'est quoi la CSS? Eh bien, pourtant, ça fait plus que 2 ans que ça a été mis en place et conseil d'émaillage, vous avez prévenu avant même que ça change. Et là, je vais vous donner un petit peu de détails là-dessus. Hein. D'ailleurs, conseil d'émaillage est là pour vous répéter, même si vous n'avez pas bien entendu. Après, justement, en parlant de ne pas bien entendu, il y a une auditrice qui m'avait demandé des précisions concernant l'assurance vie, assurance décès. Elle m'a dit qu'elle a pris l'émission en cours, elle n'a pas bien entendu. Voilà, mais sachez que vous pouvez réécouter le samedi à 16h ou bien reprendre en podcast sur Internet. Ah, ensuite, nous allons parler toujours dans les questions des auditeurs, faire une donation de son vivant, conditions, formalités, impôts, un peu en gros. Après, j'ai reçu un texto, souvenez-vous, d'une personne qui a eu son ASS coupé parce qu'elle avait le droit à la retraite, elle n'avait rien fait. Conseil de démaillage l'a aidé. Bien sûr, on remercie la caisse de retraite et on remercie Pôle emploi. Eh bien, tout a été remis en place hier. Hein, vous voyez, ça fait un petit moment, bien sûr, que je l'ai dit, un jeudi de ça. Mais là, ça y est, conseil de démaillage lui a l'a guidé, l'a aidé, et donc ben, elle nous fait un retour, elle nous dit que c'est OK, mais hier, on l'a appelé pour lui dire, tout est remis en place, son ACS, elle va retoucher, son ASS, allocation spécifique, d'accord. Voilà pour ce qui est de ce dont nous allons parler aujourd'hui.
Petit moun entouré l'eau, la place pour choisir.
Alors, notre premier point, RSA, handicap, petite enfance, le projet de loi plein emploi définitivement adopté. Porté par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, le projet de loi plein emploi a été définitivement adopté le 14 novembre par les parlementaires. 15 heures d'activité obligatoire pour les bénéficiaires du RSA. Création d'un service public de la petite enfance, meilleur accompagnement des travailleurs handicapés. Voici un petit tour d'horizon que je fais pour vous par rapport à la loi qui a été définitivement adoptée par les parlementaires. Eh bien, ce projet de loi de plein emploi qui a suscité de nombreux débats a été définitivement adopté, comme je vous le dis, le 14 novembre par l'Assemblée nationale. Après discussion en commission mixte paritaire, la gauche, insatisfaite, a saisi le Conseil constitutionnel. Les sages ont un délai d'un mois pour se prononcer sur la constitutionnalité du texte. En attendant, je vous donne quand même ce qu'il a été décidé. Alors, le texte contient les dispositions initialement introduites par le Sénat. Initialement, ça veut dire depuis le début. Le texte contient la disposition qui a été introduite depuis le début par le Sénat, qui prévoit que le contrat d'engagement conclu avec le demandeur d'emploi ou le bénéficiaire du RSA devra définir une durée d'activité hebdomadaire d'au moins 15 heures. Cette durée d'activité, qui comprendra notamment des actions de formation et d'accompagnement, pourra être aménagée pour des raisons liées à la situation individuelle de l'intéressé. Les missions du réseau Pôle emploi, créées par le texte, répondent au souhait du Sénat de préserver les prérogatives des collectivités territoriales et des opérateurs sur le territoire. Les acteurs nationaux et locaux définiront ainsi de manière concertée les modalités de leur action coordonnée, sans être contraints par une charte de coopération inscrite dans la loi. Concernant l'accueil du jeune enfant, eh bien, la CMP a adopté l'article 10 dans la rédaction du Sénat, complété par les mesures de simplification. La commune sera ainsi reconnue comme autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Afin que ce rôle n'emporte pas de contraintes excessives sur les petites communes, eh bien, l'élaboration d'un schéma pluriannuel sur l'offre d'accueil, pluriannuel, je vous l'ai dit, plusieurs fois dans l'année, et de l'office du jeune accueil du jeune enfant ne sera obligatoire que pour celles de plus de 10 000 habitants. L'article 10 bis, qui renforce le contrôle des crèches, a également été adopté par la CMP. D'accord ? Alors donc, le président de la commission des affaires sociales et le rapporteur du Sénat se félicitent de l'adoption du texte qui renforcera les droits et les devoirs des demandeurs d'emploi et améliorera la coopération entre les acteurs dans le respect de la liberté locale. Alors donc, voilà pour ce qui est de le RSA handicap. Alors pour aller toujours dans le droit fil de ceux qui perçoivent le RSA, eh bien, les départements de France protestent. La revalorisation du RSA pour 2024 devrait coûter près de 500 millions d'euros de dépenses supplémentaires, c'est ce qu'estiment les départements de France. Entre guillemets, ils disent que le gouvernement doit cesser de faire les poches des départements. Après l'inscription dans le projet de loi de finances 2024 d'une revalorisation de 4,6% du RSA, les départements de France jugent inadmissible, entre guillemets, que cette majoration calculée sur la base de l'inflation constatée n'ait pas donné lieu à la moindre concertation. Cette augmentation toujours entre guillemets, de près de double de l'inflation prévisionnelle, en vertu du mécanisme pensé à une période où l'inflation était quasi nulle, n'est plus adapté à la situation présente. Ferme les guillemets. C'est ce qu'on conteste François Sauvadet, le président de l'association des élus, dans un communiqué du 27 novembre. Il juge, certes important pour nos compatriotes qui dépendent du RSA de tenir compte de l'inflation constatée, mais estime qu'on ne peut pas la faire supporter au seul département. La revalorisation selon le département de France devrait entraîner 500 millions d'euros de dépenses supplémentaires pour les départements, auxquels s'ajoutent notamment l'extension du Ségur et les augmentations du point d'indice des fonctionnaires. Or, du côté des recettes, ces collectivités subissent une stagnation des dotations de l'État et une chute brutale de la DMTO, ses droits tirés de ventes immobilières. Face à cet effet ciseau, les départements de France escomptent une perte de près de 7,5 milliards d'euros dans leur budget de 2024 par rapport à 2021. Et bien au passage, l'association souligne que, entre guillemets, le département n'est pas que la collectivité du social, mais qu'il est aussi et surtout le premier acteur de la solidarité territoriale. Alors, ces informations, je retire d'un communiqué du département de France, de l'association des départements de France. Alors, donc, nous allons parler de victimes de violences conjugales. Un décret fixe le barème de l'aide d'urgence. C'est un décret du 24 novembre 2023, hein, qui a été publié le 25 novembre 2023. Vous voyez que Conseil des maillages est derrière les textes pour vous. Et surtout sur cette polémique-là concernant cette histoire de victimes de violences conjugales, que les gens mélangeaient un peu les pinceaux. Eh bien, les victimes de violences conjugales, ce décret fixe le barème de l'aide d'urgence. Un décret précise les conditions d'attribution et le montant de l'aide d'urgence, don ou prêt. Attention, il donne, mais il prête. Je vais vous donner dans un instant les détails un petit peu du décret. Pour les victimes de violences conjugales, celle-ci pourra varier entre 243 euros, appli plus de 1300 euros. Pour les aider à quitter leur domicile, les victimes de violences conjugales vont pouvoir disposer d'une aide d'urgence dont les modalités sont fixées par ce décret du 24 novembre 2023. il y a une semaine, eh ben, la ministre des Solidarités, Aurore Béager, précisait les contours de l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales prévues par la loi du 28 février 2023. Et comme je vous l'ai dit, lorsqu'il y a une loi, la loi, elle est d'actualité, elle est valable. Mais pour pouvoir faire l'application justement de ce point-là, eh ben, il a fallu un décret. Et là, le décret d'application, il est paru, il a été publié. Et je vais vous donner les informations extrait du décret dans un instant, mais je vous donne un petit peu en condensé ce qui se passe. Alors, il n'y a pas un seul, il y a deux décrets. Alors, sur les deux décrets qui ont été publiés au Journal officiel le samedi 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l'un précise la forme de l'aide d'urgence, son barème et ses conditions d'attribution, et ses dispositions entrent en vigueur le 28 novembre 2023. L'autre décret vise à adapter l'aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales à Mayotte. Donc, il y en a un qui nous concerne et il y en a un qui concerne Mayotte. Seul le premier texte fait ici l'objet du commentaire. C'est-à-dire, seul ce que je viens de vous dire, le commentaire que je viens de vous dire, eh bien, ça concerne le décret, le premier décret, hein, que je vous donne d'ailleurs un petit extrait dedans. Hein. Les dépenses urgentes pour la mise à l'abri, donc. Pour rappel, la loi prévoit d'attribuer une aide financière d'urgence à toute personne victime de violences conjugales, principalement les femmes, mais les hommes n'en sont pas exclus. Ils azotent comme ça, ils donnent les femmes, les bonnes bonhommes aussi, les comptez dedans, il n'est pas exclu. Hein. Donc, ils donnent aussi aux hommes, afin de faciliter, soutenir le départ du domicile conjugal. Alors, ce décret que j'extrais justement, ce décret concerne, qui est concerné, quel public concerné par ce décret qui est sorti, décret du 2023-1088 du 24 novembre 2023. Eh bien, le public concerné, ce sont les personnes victimes de violences conjugales, les caisses d'allocation familiale et de la mutualité sociale agricole. Pourquoi la mutualité sociale agricole? Parce que c'est pas tout le monde qui relève de la caisse d'allocation familiale, il y en a qui relèvent de la mutualité sociale agricole. L'objet, modalité d'attribution et de gestion de l'aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales. Son entrée en vigueur, bon, les dispositions du décret entrent en vigueur le 28 novembre 2023. Alors, le décret précise les modalités d'attribution de l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales, notamment le niveau de ressources au-dessus duquel l'aide est attribuée sous forme de prêt. Le barème de l'aide en fonction des ressources et du nombre d'enfants à charge et les modalités du remboursement de l'aide attribuée sous forme de prêt. D'accord ? Il n'a pas dit « donne » là. Alors donc, par exemple, si je regarde l'article 2, il dit « l'aide financière mentionnée à l'article L214-9 prend la forme d'un prêt sans intérêt ou d'une aide non remboursable. Cela, ça va dépendre des revenus. Elle est versée en une seule fois. Elle est attribuée donc sous forme de prêt sans intérêt lorsque le demandeur de l'aide perçoit des ressources définies à l'article D214-15 excédant un pourcentage du montant de salaire minimum de croissance qui est mentionné par le Code du travail. Net de prélèvements sociaux obligatoires, etc. etc. Je ne vais pas vous donner tous les détails. Par exemple, 150% pour une personne seule, le deuxième 225%, etc. etc. Bon, je ne vous donne pas les détails, c'est trop compliqué pour vous, hein, et pour moi aussi d'ailleurs. Alors, lorsque le demandeur... C'est trop compliqué pour moi pour vous donner les détails et le temps, d'accord ? Sinon, c'est précisé dans le décret. Lorsque le demandeur perçoit des ressources inférieures ou égales au pourcentage qui est fixé, que je viens de vous dire là, eh bien, l'aide est attribuée sous la forme d'une aide non remboursable. Mais les montants des seuils de ressources résultant de l'application de ce décret sont revalorisés au 1er avril de chaque année sur la base du montant du salaire minimum de croissance mentionné dans un alinéa de ce décret et qui rentre en vigueur au 1er janvier de la même année. Donc, je ne vous parle pas d'alinéa, d'article et tout ça, mais je vous donne un petit peu l'extrait de ce décret d'application. Alors, sont prises en compte pour la détermination du montant de l'aide, les revenus d'activité professionnelle du salarié et non salarié, hein, l'aide légale ou conventionnelle du salarié, les indemnités perçues à l'occasion de congés légaux, maternité, paternité, adoption, etc., les indemnités journalières, etc., les allocations prévues par le Code du travail, la rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés, etc., les pensions de retraite, pour les travailleurs non salariés, les revenus d'activité professionnelle, pour les travailleurs non salariés non agricoles et pris en compte le montant de dernier chiffre d'affaires, pour les travailleurs non salariés agricoles, le montant du bénéfice annuel connu, déclaré et divisé par 12, Eh bien, dans le cas où le travailleur non salarié n'a déclaré aucun chiffre d'affaires ou bénéfice, eh bien, ses revenus professionnels sont estimés égaux au montant de revenus solidarité active. Alors, donc, vous voyez que cette aide, elle n'est pas d'office comme ça, il bataille, après chacun de ses autres côtés, il demande l'argent, non. C'est pas comme ça du tout. Alors, donc, voilà ce qui est. Il y a aussi le remboursement. Comment ça se passe pour le remboursement du prêt? Parce qu'il y en a qui auront l'argent, mais qui ne seront pas obligés de rembourser. Mais là, il y a le remboursement du prêt. Ben, le remboursement de l'aide attribuée sous forme de prêt est exigible de son bénéficiaire à compter du 24e mois qui en suit l'attribution. C'est-à-dire, il donne de l'argent et au bout de 24e mois après, eh ben, il est remboursable. Sauf dans le cas où une procédure pénale qui est en cours, auquel le remboursement et la prescription du recouvrement restent suspendus jusqu'à ce que l'organisme qui a attribué l'aide et connaissance de l'issue de cette procédure, puisque là, il pousse tribunal, tout ça, hein, il ne donne pas l'argent comme ça. Hein. La procédure pénale engagée à l'encontre du conjoint, partenaire de Pax, etc., du bénéficiaire a donné lieu à une décision définitive demandant celui-ci de remboursement du prêt. Donc, elle est remboursée par son bénéficiaire par fraction égale en 24 mensualités au maximum à compter de la date d'exigibilité déterminée en application de cet article-là. Eh bien, le bénéficiaire du prêt peut opter alternativement ou cumulativement, c'est-à-dire soit les alternes, soit les mettre tout ensemble, pour un remboursement anticipé, ainsi que pour un remboursement en une seule fois ou sur un nombre de mensualités inférieur à 24 mensualités, c'est à loin, ou bien pour un prélèvement sur les autres prestations à échoir, c'est-à-dire si vous avez droit à d'autres prestations, eh bien il déduit dessus. Alors, il peut, au regard de la situation financière, solliciter une remise totale ou partielle du remboursement du prêt auprès de l'organisme qui lui a attribué dans les conditions prévues par les articles du Code de sécurité sociale. D'accord ? Alors, vous voyez que ce n'est pas si facile que ça. Donc, il y a problème. Eh bien, il y en a plainte, il y en a la justice, il y en a, il donne le prêt, mais il prête ou bien il donne selon le montant que vous pouvez percevoir par rapport à vos revenus. Voilà, donc c'est pas si facile que ça. C'est pour ça que je voulais donner les détails qu'un auditeur avait posé, plusieurs auditeurs d'ailleurs qui avaient posé la question. Alors là, nous avons une nouvelle pour La Réunion précisément. L'État promet un rattrapage de l'offre médico-sociale à La Réunion. Signature d'une convention entre la ministre chargée des personnes handicapées, Fadila Khattabi, et le président du département de La Réunion, Cyril Melchior. Une convention a été signée, en effet, entre l'État et le département de La Réunion pour donner des moyens nouveaux à cette île de l'océan Indien qui connaît un important retard en matière d'équipement et de services en faveur des personnes handicapées. Un élu municipal en situation de handicap témoigne de ces difficultés d'ailleurs. La Réunion reste insuffisamment dotée en capacité de prise en charge au niveau des établissements et des services médico-sociaux, aussi bien pour les jeunes que les adultes. Cette réalité se traduit par des parcours de vie douloureux pour nos concitoyens les plus lourdement handicapés et leurs familles, explique dans un communiqué du 13 novembre le président du département de La Réunion, Cyril Melchior, alors qu'il a signé avec l'État une convention devant combler une partie du retard pris par ce territoire en comparaison de la métropole. Vous voyez, bon, il y a des choses qui se font, qui a une différence entre la métropole, mais parfois il y a un réajustement. Alors voilà, il y a une bonne nouvelle pour La Réunion. Maintenant, nous allons parler de l'adoption définitive du projet de loi portant sur les mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Olivier Dussopt, ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion, et Madame Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, saluent l'adoption du projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du projet du marché du travail en vue du plein emploi. En adoptant les conditions de la commission mixte paritaire, le Sénat, en adoptant les conclusions de la commission mixte paritaire, le Sénat permet au texte d'entrer en application. Ces avancées permettront d'apporter une réponse efficace aux difficultés de recrutement. Pour ce qui concerne l'assurance chômage, la loi adoptée par le Parlement permet de prolonger jusqu'au 31 décembre 2023 les règles d'indemnisation pour 3,5 millions de demandeurs d'emploi ayant droit à l'allocation chômage. Il installe également dans la durée le dispositif du bonus-malus dans les 7 secteurs les plus utilisateurs du contrat court et améliore la lisibilité du calcul des taux modulés et du bonus-malus en permettant aux entreprises d'accéder aux données sous-jacentes à ce calcul. Il favorise ainsi l'anticipation et la visibilité des entreprises sur ce dispositif pour leur permettre de rallonger leurs contrats et de sécuriser davantage leurs salariés. Par ailleurs, le projet de loi apporte une réponse aux difficultés de recrutement qui sont intensifiées particulièrement depuis la fin de la crise sanitaire. Comme l'a souhaité le président de la République, eh bien, le projet de loi permet au gouvernement, en étroite concertation avec les partenaires sociaux, d'introduire un nouveau mécanisme de modulation des paramètres de l'assurance chômage en fonction de l'état du marché du travail. Tous ceux qui étaient tracassés là, pour l'histoire de l'assurance chômage, l'allocation chômage, d'accord ? Il y a un nouveau mécanisme de modulation du paramètre, d'accord ? Le régime deviendra plus protecteur quand l'activité ralentit et plus incitatif au retour à l'emploi quand elle accélère et quand les tensions de recrutement augmentent. Enfin, le Parlement a étoffé ce texte, l'a rajouté, avec des nouvelles dispositions encadrant davantage les abandons de poste ainsi que les refus de CDI qui font suite à des contrats d'intérim ou de contrats à durée déterminée, tout en veillant à assurer la protection maximale des droits des travailleurs. Ça, c'est en matière d'assurance chômage. Ensuite, il y a, pour ce qui concerne les élections professionnelles, l'article 3 tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2021 sur l'électorat et l'éligibilité aux élections des représentants des salariés dans les entreprises. Il clarifie ainsi le fait que les salariés disposant d'une délégation d'autorité ou de représentation de l'employeur font pleinement partie de l'électorat. Ça, c'est pour les élections professionnelles. Ensuite, en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, l'article 4 permet une modernisation et une simplification du dispositif de validation des acquis de l'expérience. Vous connaissez le VAE et la création d'un service public en ligne dédié à la reconnaissance des compétences acquises tout au long de la vie, notamment pour les proches aidants ou les bénévoles. C'est un outil pertinent et efficace de promotion, d'évolution et de transition professionnelle qui permet d'accéder à une certification reconnue et de développer ainsi l'employabilité de tous les actifs, y compris les moins qualifiés et les plus éloignés de l'emploi. Cette réforme du dispositif permettra très concrètement de la rendre plus attractive et de l'articuler avec les parcours de formation pour passer de 30 000 parcours annuels à 100 000 d'ici la fin du quinquennat. Alors, la validation des acquis de l'expérience, là, l'a dit dans ce que me vient de raconter Azotla, que l'a élargi aux proches aidants, et ça, les bénévoles, c'est le travail bénévole, ben, aura un service, un outil efficace que sera mis sur Internet pour faire la reconnaissance de la certification, hein, et pour développer ainsi l'employabilité de tous les actifs, y compris les moins qualifiés. Donc, et ceux les plus éloignés de l'emploi. Donc voilà, pour la validation des acquis de l'expérience. Quand vous avez des expériences, vous faites valider vos acquis. Enfin, vous allez trouver des explications sur le site, mais si vous avez besoin des renseignements sur le sujet, conseil@radioarc-en-ciel.re. Et dans ce même adoption définitive du projet de loi-là, il y a aussi la ratification de diverses ordonnances. Le projet de loi vise enfin à permettre au Parlement de ratifier 20 ordonnances prises pendant la période de la crise sanitaire et portant diverses mesures relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. Alors, toutes ces informations, j'ai pris ça dans un contact de presse du ministère du Travail, du plein emploi et de l'insertion, d'accord, au cabinet de M. Olivier Dussopt. Voilà pour ce qui est de tout ce qui a été décidé et de adopter du projet de loi définitivement sur les mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.
Ça la vie la fini pourri, zordi si mi vive la vie. la patrie. Nous pour vivre en saloperie, ni connaît pis que ça faut dire. Ça tout ça ban bureaucrate, joli costume, grand cravate, ça la mouka pour des savants. La misère la pour t'autosser, dans le bureau pour décider, la réunion faut défiscaliser. Ban bureaucrate, joli costume, grand cravate, ça la mouka pour des savants. La misère la pour t'autosser, dans le bureau pour décider, la réunion faut défiscaliser. Tiens beau, t'es à nous, tiens beau rayonner, t'es à nous, tiens beau falaguer.
Bon, alors donc, on a parlé de RSA, de tout ça, d'augmentation, etc. Aujourd'hui, on va aussi parler des salariés, de ceux qui travaillent, des entreprises de moins de 50 salariés. Il y a une nouvelle obligation de partage de la valeur. Le projet de loi partage de la valeur prévoit l'instauration d'une nouvelle obligation de partage du bénéfice dans les entreprises de moins de 50 salariés. Hein? Ces projets de loi partage de la valeur, c'est en article 3, pour ceux qui travaillent. Bénéfice fiscal excédant 1% du chiffre d'affaires. L'Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de loi partage de la valeur le 22 novembre, suite à l'accord sur un texte commun trouvé par la commission mixte paritaire. Il intègre les dispositions relatives à l'accord national interprofessionnel signé en février. Dans la législation actuelle, aucun texte n'impose un tel partage pour les entreprises de moins de 50 salariés. La participation n'est obligatoire qu'à partir de 50 salariés actuellement. L'intéressement et la prime de partage de la valeur sont des dispositifs facultatifs. Le texte récemment adopté instaure, il veut dire ça, ils mettent en place. Ça s'y appelle instaure. Le texte récemment adopté instaure pour la première fois et de manière expérimentale une obligation de partage de la valeur dans les entreprises de moins de 50 salariés lorsque leur bénéfice net fiscal atteint au moins 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. L'expérimentation sera menée sur une période de 5 ans à compter de la promulgation de la loi et s'appliquera pour la première fois aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Pour l'année 2025, l'obligation de partage s'appliquera lorsque la limite de 1% du chiffre d'affaires sera dépassée pour les exercices 2022, 2023 et 2024. Alors, 4 possibilités de partage de la valeur. Pour remplir leur obligation de partage de la valeur, les entreprises disposent 4 possibilités. Soit instaurer un régime de participation ou d'intéressement dans des conditions prévues par le Code du travail, soit mettre en place un dispositif expérimental de participation dérogatoire prévu par le projet de loi partage de la valeur, soit abonder un plan d'épargne salariale, PEE, PEI, PACO et PERECO, soit verser une prime de partage de la valeur. L'entreprise de moins de 50 salariés sera considérée comme satisfaisant à l'obligation de partage de la valeur en cas d'application d'un des 4 de ces dispositifs au titre de l'exercice considéré. Le texte prévoit enfin une adaptation aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, ESS, de moins de 50 salariés dans la mesure où elles où leur caractère lucratif est limité. Elles seront également dans l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur lorsqu'elles réalisent un résultat excédentaire au moins égal à 1% de leurs recettes pendant 3 exercices consécutifs. Voilà pour ce qui est du régime de la prime de partage de la valeur. Alors, allons un petit coup vers la retraite maintenant pour ceux qui travaillent. Il veut aller en retraite. Alors, retraite anticipée pour inaptitude. Les précisions de la CNAV. La CNAV, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse. La CNAV présente une circulaire, le nouveau dispositif de retraite anticipé pour inaptitude au travail. Et bien, dans cette circulaire du 20 novembre, la Caisse nationale d'assurance vieillesse présente les évolutions applicables en matière de retraite anticipée pour inaptitude au travail. La loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites a en effet créé une nouvelle catégorie de départ anticipé à la retraite au profit des assurés inaptes au travail, dont la retraite prend effet à compter du 1er septembre 2023. C'est-à-dire pour tous ceux qui sont inaptes au travail et qu'ils prennent notre retraite à partir du 1er septembre 2023. Ils peuvent ainsi partir en retraite à taux plein dès l'âge de 62 ans, quelle que soit la durée d'assurance acquise. Alors là-dessus, je connais pas mal d'auditeurs avec qui j'ai traité leur dossier. Je les ai aidés à traiter leur dossier. Eh bien, il y en a quelques-uns dans ce cas-là. Alors, ce dispositif, explique la CNAV, la Caisse nationale de l'assurance vieillesse, vise les assurés reconnus médicalement ou présumés inaptes au travail. Ceux justifiant d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%, ainsi que les assurés bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou de l'allocation aux adultes handicapés, l'âge. La circulaire précise les conditions d'ouverture de droit et de calcul de cette retraite anticipée. D'accord ? Alors, si vous avez besoin, eh bien, vous allez sur le service de la Caisse nationale de retraite ou bien de votre caisse de retraite. On vous donnera des informations, ou sur Internet, hein, mais par contre, quand vous allez sur Internet, ne prenez pas forcément pour l'argent comptant tout ce que vous voyez comme interprétation. Il faut franchement que ça soit un site officiel, d'accord ? Alors donc, si vous avez besoin des renseignements, de toute façon complémentaires, conseil@radioarc-en-ciel.re ou un numéro de portable que vous m'envoyez un texto, vous m'appelez, je vous donnerai le numéro de portable à la fin de l'émission. Alors, vous savez que j'ai pris ces informations, bien sûr, c'est dans cette circulaire du 20 novembre 2023. Alors, qui peut bénéficier de la complémentaire santé solidaire ? Alors, la complémentaire santé solidaire est une aide pour payer vos dépenses de santé. Vous y avez droit si vos ressources sont modestes. C'est-à-dire, si vous n'avez pas bon peu l'argent, vous gagnez la complémentaire santé solidaire. Alors, la complémentaire santé solidaire, mais je vous donne un petit condensé quand même pour dire exactement ce que c'est avant de donner aux autres les détails des histoires de paiement et combien ça t'y touche. Alors, la complémentaire santé solidaire est une aide pour payer vos dépenses de santé si vos ressources sont modestes. Je veux dire aux autres, si vous gagnez un petit peu l'argent. Elle remplace la couverture maladie universelle complémentaire, la CMUC. Tu te rappelles, longtemps vous avez gagné la CMU, la CMUC. Elle vous donne droit à la prise en charge de la part complémentaire de vos dépenses de santé à hauteur de 100% des tarifs de la sécurité sociale, y compris à l'hôpital, et à des forfaits pour vos prothèses dentaires, vos lunettes, vos aides auditives, etc. Vous ne payez pas directement vos dépenses de santé grâce à la dispense d'avance des frais ou tiers payants. Selon vos ressources, la complémentaire santé solidaire ne vous coûte rien ou bien vous coûte moins de 1 euro par jour et par personne. Elle peut couvrir l'ensemble de votre foyer. Eh bien, pour savoir si vous y avez droit, eh bien, vous pouvez utiliser un simulateur qui est en ligne. Vous allez sur l'assurance maladie, il y a un simulateur et il peut vous dire si vous avez droit ou pas à la ASS. Si vous y avez droit, eh bien, vous devez choisir un organisme gestionnaire. La caisse d'assurance maladie, une mutuelle, je parle pour une auditrice notamment de l'Ouest là, qui a reçu son document et la caisse d'assurance maladie lui a proposé, et ou bien une mutuelle, etc. Eh bien, depuis le 1er avril 2022, eh bien, l'attribution de la complémentaire santé solidaire est facilitée pour les personnes qui touchent l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA. Hein, depuis le 1er avril 2022, eh bien, l'attribution de cette ASS, eh bien, les facilités les plus faciles pour ceux qui touchent l'ASPA. Alors voilà, ceux qui touchent la complémentaire solidaire, c'est quoi ? Eh bien, c'est le complémentaire solidaire est une aide pour payer vos dépenses de santé. Alors, selon vos ressources, la complémentaire santé solidaire ne vous coûte rien ou bien vous coûte moins de 1 euro par jour et par personne. Elle peut couvrir l'ensemble du foyer. Alors, comment la complémentaire santé solidaire vous aide-t-elle ? Avec la complémentaire santé solidaire, vous ne payez pas le médecin, le dentiste, l'infirmier, le kinésithérapeute, l'hôpital, les médicaments. Et vous ne payez pas, dans la plupart des cas, vos prothèses dentaires, vos lunettes, vos prothèses auditives ou bien vos dispositifs médicaux. Alors, si vos ressources sont modestes, si vous gagnez un petit peu l'argent, l'assurance maladie peut vous aider pour vos dépenses de santé avec la complémentaire santé solidaire, la CSS. Alors, pour tout ça, il faut aller sur le site, je vous l'ai dit, hein, on va vous expliquer tout ça, si vous avez droit, vous avez même un simulateur. Quand ils cliquent dessus, ils posent à Zot toutes les questions et à la fin, ils disent à Zot s'ils ont le droit ou pas. En tout cas, il faut bien renseigner le site. Hein. Et si vous avez besoin des renseignements complémentaires, eh bien, vous envoyez un mail conseil@radioarc-en-ciel ou alors vous me téléphonez ou un texto. Mais en gros, à qui a droit à la complémentaire solidaire? Vous avez droit à la complémentaire santé solidaire si vous bénéficiez de la prise en charge de vos frais de santé par l'assurance maladie en raison de votre activité professionnelle ou de votre résidence stable et régulière en France. Si vos ressources sont inférieures à un montant qui dépend de la composition de votre foyer, condition de ressources, c'est pas que au niveau de revenu fiscal de référence, hein, mais tout ce que vous touchez, en fait, tout ce que vous avez, tout ce que vous percevez. Hein. Mais il faut pas oublier aussi que si vous avez un revenu fiscal de référence bas, vous voyez qu'à chaque fois, je vous dis, quand vous déclarez vos impôts, n'oubliez pas de déclarer tout ce que vous devez déduire. Même si vous payez zéro impôt, il faut déduire ce que vous avez dépensé pour vos enfants notamment. Hein. Ensuite, vous avez droit aussi, et si vous avez déjà eu la complémentaire santé solidaire, vous devez être à jour du paiement de vos prestations financières ou en cours de régularisation. D'accord ? Ce qui est à noter, c'est que la complémentaire santé solidaire ne s'applique pas à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les assurés du régime de Mayotte ayant de faibles revenus peuvent toutefois demander une prise en charge à 100%. Alors, hop, attention, hein, une offre de service pour les travailleurs indépendants en difficulté. Parce qu'il y a des travailleurs indépendants, ils ne gagnent pas l'argent, la point ressource. Bon, alors, si vous êtes travailleur indépendant, vous rencontrez des difficultés financières, médicales, familiales ou sociales, si vous ne savez pas à qui vous adresser, vous allez sur HELP. H-E-L-P sur Internet. HELP est là pour vous aider. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un petit papier. H-E-L-P. Eh bien, ce nouveau dispositif associé à l'USAF, les allocations familiales, l'assurance retraite et l'assurance maladie, qui se mobilise pour favoriser un meilleur accès aux droits, aux soins et aux aides sociales. En pratique, vous devez, dans un premier temps, répondre à un questionnaire unique en ligne. Une fois que vous l'avez rempli, eh bien, l'organisme local ou régional concerné par votre demande étudie votre situation. En fonction de son domaine de compétences, recouvrement, famille, retraite ou maladie, il détermine les actions à mettre en place pour vous aider au mieux. Eh bien, vous êtes informé par mail à chaque étape de l'avancement de votre demande. Donc, vous allez sur HELP, H-E-L-P, vous cliquez dessus et on vous dit comment faire si vous êtes des travailleurs handicapés, des travailleurs indépendants en difficulté, votre micro-entreprise, quoi, votre entreprise, quoi. D'accord? Alors, donc, pour ce qui concerne la complémentaire santé solidaire, il y a des conditions de ressources, bien sûr. Le droit à la complémentaire santé solidaire dépend des ressources que vous avez et le reste de votre foyer avait eu durant les 12 mois précédant l'année, l'avant-dernier mois de votre demande. Exemple, pour une demande faite en janvier 2022, eh bien, la période de référence pour la prise en compte des ressources court du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. D'accord? Et donc, si vous y avez droit, eh bien, elle ne vous coûte rien ou bien vous coûte moins de 1 euro par jour et par personne. Alors, voilà pour ce qui est de la complémentaire santé solidaire. Bon, après, il y a un document CFA aussi hein, pour faire la demande de complémentaire santé solidaire. Il y a un numéro CFA. Si vous ne l'avez pas, vous m'envoyez un mail, je vous l'envoie. Numéro 52-269-10-04. Hein, je vous envoie le document si vous ne l'avez pas. Alors, l'assurance vie. Nous passons aux réponses aux questions. Un coup de pause vite fait pour passer ensuite à la réponse aux questions des auditeurs.
Mon bonheur, c'est toi. Nuit après nuit.
Bon, ben nous passons aux questions des auditeurs alors. Hein. Alors, la demande de précision. Quelle différence entre assurance vie et assurance décès ? Figurez-vous que je n'ai pas cru que c'était une personne âgée qui m'avait écrit, mais ça me surprend quand même qu'une fille de 28 ans qui m'écrit pour me dire « Bonjour, je n'ai pas d'assurance pour le moment » parce qu'elle m'avait écrit la fois dernière et j'avais dit « Quelle est votre question et quelle assurance vous avez ?» Elle m'a dit non, voilà ce qu'elle dit. Alors « Bonjour, je n'ai pas d'assurance pour le moment, j'arrivais à la fin de l'émission. » Donc elle a écouté à la fin de l'émission et elle est tombée sur le sujet et je voulais savoir la différence entre l'assurance vie et l'assurance décès et quel est le mieux. « Je n'ai que 28 ans, j'aimerais une direction. Merci. » Alors, y a-t-il un replay de l'émission ? Merci à vous. Oui, il y a un replay de l'émission. Il y a le samedi à 16h. Hein, vous pouvez réécouter l'émission et vous allez bien traîner sur ce que j'ai dit que vous n'avez pas compris. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'aller en podcast. Vous allez sur Google et vous mettez Annie Conseil Radio, Conseil Démaillage. Et tout de suite, vous allez avoir le replay de l'émission et vous allez pouvoir réécouter autant de fois que vous voudrez. Et si vous avez des questions, bien sûr, conseil@radioarc-en-ciel.re. Alors, pour répondre à votre question, eh bien, je vais dire ça et ça va servir à d'autres. Hein. L'assurance vie et l'assurance décès sont deux produits différents, malgré leur nom proche. L'assurance vie est un produit d'épargne libre qui permet de disposer d'un capital à terme ou en cas de décès. D'accord ? L'assurance vie est un produit d'épargne libre qui permet de disposer d'un capital à terme. À terme, il veut dire quand elle a fini, ou bien en cas de décès. Alors que l'assurance décès est un produit de prévoyance qui permet de protéger sa famille en cas de décès prématuré. Les deux produits ont en commun le versement d'un capital au bénéficiaire désigné. Mais ils diffèrent par la nature du contrat, l'origine de la somme versée et les conditions de fiscalité. Alors l'assurance vie et l'assurance décès sont deux types de contrats d'assurance qui diffèrent en termes de nature de somme versée et d'indemnité du bénéficiaire. Par exemple, le contrat, c'est l'assurance vie, qui est un produit d'épargne. C'est un contrat par lequel vous payez des primes à un assureur pour qu'il verse à une date prévue dans le contrat une somme à vous-même ou à vos bénéficiaires. D'ailleurs, vous le précisez vous-même avec votre assureur, quand est-ce que vous allez toucher cette somme? Alors, la somme versée aux bénéficiaires et l'épargne constituée, c'est-à-dire tout ce que vous avez épargné. Ensuite, il y a une identité du bénéficiaire. Nous sommes là sur l'assurance vie. Hein. Vous avez l'identité du bénéficiaire. Alors, le souscripteur peut être le bénéficiaire. C'est-à-dire, il peut dire que moi, je souscris une assurance vie, mais le bénéficiaire, c'est moi. Ou bien, je mets le nom d'un bénéficiaire. La fiscalité. Les revenus tirés d'un contrat d'assurance vie ont des régimes fiscaux différents en fonction de la durée du contrat et de la période des versements. Alors, le droit de succession. Nous parlons de l'assurance vie, hein. Le capital décès n'est pas imposable au droit de succession, sauf si des cotisations ont été versées après les 70 ans du souscripteur. Dans ce cas, les cotisations versées après les 70 ans du souscripteur sont réintégrées dans la succession et sont imposées avec le reste du patrimoine du défunt. Là, nous parlons de l'assurance vie. Après l'assurance décès, l'assurance décès est un contrat d'assurance. Vous payez les primes à un assureur qui s'engage à verser un capital à votre bénéficiaire au moment de votre décès. Donc, la somme versée au bénéficiaire, ben, c'est certainement pas vous, puisque vous êtes mort. La somme versée au bénéficiaire est la prime prévue lors de la signature du contrat. Donc, alors, l'identité du bénéficiaire, le souscripteur ne peut pas être le bénéficiaire, bien sûr, puisqu'il est mort, mais il peut dire qui va toucher la somme. En résumé, l'assurance vie est un produit d'épargne qui permet de constituer une épargne et de la transmettre à ses bénéficiaires, tandis que l'assurance décès est un contrat d'assurance qui permet de protéger financièrement ses proches en cas de décès. Alors cette fille me dit, qu'est-ce qui est mieux de faire? Alors ben moi je lui conseille l'assurance vie bien sûr, et de faire très attention lorsqu'elle souscrit pour mettre les bénéficiaires et surtout les petites lignes dans l'assurance, elle regarde bien. Alors j'ai un autre message là. Je reviens vers vous pour vous demander de l'aide, encore une fois. Ah bon, Conseil Démaillage l'a aidée et aujourd'hui, elle se retrouve dans un problème. Je suis propriétaire d'un appartement que je loue avec les mêmes locataires depuis 2019. Je n'ai jamais augmenté de loyer. Pourrez-vous me dire concernant l'augmentation des loyers, comment faire, etc. Je reviendrai vers elle et je vous donnerai les informations également Mais là, aujourd'hui, le temps nous est encore compté, donc je ne pourrai pas vous donner des explications là-dessus trop longtemps. Alors, nous avons une dentiste qui me dit que c'est urgent pour un problème de santé, qu'elle va faire des commissions médicales, etc. Donc, une histoire sur sa santé. Donc, eh ben, je reviendrai vers ça jeudi prochain. Le conseil d'émaillage se termine, nous arrivons à l'heure de la fin. Conseil d'émaillage de Radio Arc-en-Ciel vous dit merci. Toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel et Didier à la technique vous dit au revoir. Et le numéro de portable, c'est le 06 92 67 73 35, le fixe 02 62 41 66 16 et le mail conseil@radioarc-en-ciel.re. Ne me dites pas que je suis allée trop vite aujourd'hui, je suis allée lentement. Merci beaucoup, auditrices, auditeurs. Merci pour votre fidélité et restez fidèles à Radio Arc-en-Ciel. À jeudi prochain. Au revoir Didier.